Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Bonjour à tous.
Et de Morren.
Salut tout le monde.
Alors messieurs, comment sont passées vos vacances ?
Et ma foi, fort bien. Un petit peu de jeux vidéo avec Octopath Traveler, dont je ferai peut-être prochainement un test.
Et ah puis, oui, c'est vrai que j'avais oublié que tu t'étais lancé en streaming là-dessus. D'ailleurs, Monsieur Mordren, la France veut savoir, c'est quand vous reprenez les podcasts, les streams, s'il vous plaît.
Hein. Prochainement. On va dire soon, à la Blizzard.
le mec qui se mouille pas, quoi.
C'est ça, j'ai trop l'habitude maintenant.
Ok, d'accord. ATH, les vacances, ça s'est bien passé ?
Ouais, super, loin du JV.
Ah, loin du JV.
Ah ouais, bah j'ai rattrapé pas mal de mangas que j'avais en retard, des animes aussi. Et puis voilà, j'en ai profité pour me reposer, être avec la famille, donc pas de jeu.
Et donc là, c'est la rentrée sur Spider-Man, c'est ça.
Et juste avant, sur Shenmue.
Ouais, effectivement, aussi Shenmue.
Et toi, Tyran, les vacances ?
Alors, les vacances, je les ai passées en compagnie de mes parents, et justement, je voulais faire un petit retour là-dessus, parce que mon père a pu essayer les Tomb Raider récents. Et j'ai remarqué un truc intéressant, juste au passage. Il a fini les Tomb Raider récents et il s'est mis à Tomb Raider Anniversary. Et il y a un truc que je veux bien reconnaître aux jeux récents, c'est qu'ils sont beaucoup plus accessibles aux personnes qui sont en situation, alors je vais pas dire d'handicap, mais qui en tout cas ont des difficultés pour jouer aux jeux vidéo. Par exemple, mon père est atteint de la maladie de Parkinson et il tremblote de la main gauche, si vous voulez. Alors c'est pas non plus une version avancée de la maladie, mais il tremble un peu de la main gauche. Et vous vous doutez que trembler un peu de la main gauche quand on doit manipuler le stick...
Ouais.
C'est pas toujours facile. Et du coup, j'ai pu voir la différence entre les Tomb Raider récents et Anniversary, qui pourtant est déjà beaucoup plus maniable que les tout premiers épisodes. Et je dois avouer quand même que il s'en sort beaucoup mieux sur les récents, quoi. Faut dire ce qui est, c'est beaucoup plus permissif, on va dire. Alors que Anniversary, dès que tu tremblotes un peu, il y a des moments, c'est pas évident, quoi. Ça, plus le fait que Anniversary, pour moi, un gros problème. C'est sa putain de caméra de merde de chiottes dans les combats où tu sais elle sait plus où est, où donner de la tête quoi. Dès que tu sautes quelque part, la caméra elle sait plus où elle est. C'est là que tu vois qu'il y a eu aussi une évolution dans les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on gère énormément mieux ces choses-là quoi. Voilà, c'était mon petit retour d'expérience de cet été. Et du coup, il y a Tomb Raider qui sort la semaine prochaine, le nouveau, là, c'est Shadow Tomb Raider, je crois.
Ouais.
Et donc, il va s'y mettre. Parce qu'il a bien apprécié, en fait, ça fait, tu sais, une expérience un peu film. Il aime bien,
ouais.
En fait.
Voilà. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais.
Mais
ouais, c'est cool.
Il est pas un peu dégoûté que les énigmes ont disparu dans Tomb Raider ?
Oh oui, c'est nul à chier. Mais en fait, tu sais, il est en mode popcorn, quoi. Donc, ouais. En fait, pour lui, c'est pas les mêmes jeux. Les anciens Tomb Raider, ils jouent plus pour le côté justement, je réfléchis, je fais un plan, etc. Par contre, le truc c'est que l'anniversaire, il a rage quit à cause des boss. Parce que moi, quand j'étais là, tu sais, je pouvais l'aider sur les boss. Mais le truc, c'est que là, je suis plus là et donc là, ça faisait un mois qu'il bloquait sur un boss apparemment. Et le problème, c'est pas que les boss soient difficiles, c'est la caméra quoi. Apparemment, il s'en sortait pas avec la caméra et du coup, il a rage quit.
Et la semaine dernière. Ton père, il joue sur quelle plateforme ? Sur PC ?
Ouais, sur PC.
Sinon, je l'aurais bien conseillé Uncharted parce que ils sont aussi assez simples d'accès, tu vois.
Honnêtement, je lui aurais mis Uncharted s'il avait une Play 4, c'est ce que j'aurais fait.
Ouais, et puis dans Uncharted au moins, il y a toujours quelques énigmes même si c'est pas les trucs où tu tires les cheveux. Ouais. Mais
puis il y a un côté popcorn aussi qui devrait lui plaire a priori.
Et je trouve que justement le côté popcorn dans Uncharted, il est plus maîtrisé que dans les Tomb Raider quoi.
Les derniers Tomb Raider, c'est ça. Bon, avant de commencer dans le cœur du sujet, n'est-ce pas,
une
petite annonce à faire. Nous recrutons. Alors, nous recrutons pour plusieurs raisons. Déjà, Pixel nous a quittés. Et ensuite, Ben a eu un très heureux événement. Il est devenu papa. Voilà. Et donc, il est foutu, hein, par définition. C'est-à-dire que bon, vous vous en doutez hein, quand on a un petit chien d'enfant comme ça, on va dire que c'est plus difficile de venir au podcast et de prévoir. Là, en gros, on est parti sur un contrat en mode bon, je viens quand je veux, les mecs. Hein. Donc, du coup, ça fait deux personnes en moins potentiellement et on recrute. Voilà. Mon mail, je le rappelle, c'est tyranpremier@msn.com, tyranpremier@msn.com. Si jamais vous avez un micro correct et que vous aimez ce qu'on fait, c'est-à-dire parler de jeux indés, râler de temps en temps, etc. Bah écoutez, venez ici, il y a pas de souci. Voilà. On attend vos candidatures. Au sommaire de l'actualité cette semaine, on vous parlera de CrossCode, de HN, de Just Survive, de Subnautica, des Lootbox, de Steam, de Cyberpunk 2077. Je la fais à l'américaine, tu vois. Et enfin, de l'e-sport aux Jeux Olympiques. Et oui, sans oublier notre jeu du moment. Et c'est un jeu qui date, mais qui est ressorti récemment. C'est ATH qui vous a refait Shenmue 1 et 2. Je crois que c'est 17 ans après, c'est ça, ATH?
Alors, le premier Shenmue, c'est 99, le deuxième, c'est 2001.
Donc, d'accord. Donc, ouais, c'est presque 20 ans, en fait, pour le premier.
C'est ça. Ça fait 19 ans pour le premier.
Donc, on va voir, on va faire le point avec toi. Est-ce que ça a bien vieilli? On va discuter. Allez, c'est parti, on va commencer avec la sortie de ce mois-ci, c'est CrossCode, un jeu que j'attends beaucoup, que j'ai sur GOG. Ce jeu, comment dire, c'est un jeu hommage au jeu d'action de l'ère 16 bits, mais en énormément plus péchu et avec des énigmes un peu basées sur la physique du jeu, on va dire. C'est un jeu où vous jouez une nana qui a perdu la mémoire et qui joue un avatar dans un MMORPG, un petit côté Axain comme ça. Donc son but, bah tout simplement, ça va être de retrouver sa mémoire. Elle va croiser des personnages qui sont des joueurs du MMO et on va explorer cet univers qui a l'air absolument génial. En tout cas, déjà, je suis absolument fan de la bande son et ma foi, un bon petit action RPG rétro, je suis pas contre quand c'est bien fait. Voilà. Et là, ça a l'air très très bien fait. J'avais pu tester la toute première démo dont j'avais parlé ici. Et c'était très très prometteur. C'était vachement péchu. Donc, ma foi, j'attends avec impatience. Voilà. Ça sort le 20 septembre sur PC.
Et c'est très joli.
Énormément. Voilà. Bon, après, évidemment, hein, il faut aimer le pixel art, mais c'est le bon pixel art, tu vois. Allez, on va passer ensuite à un autre jeu indépendant qu'on a un peu plus vu durant la Gamescom qu'il y a eu récemment. Et ce jeu, c'est Ocean. Alors Ocean, pourquoi je l'attends ? Pour dire vite fait, c'est un jeu inspiré de Dark Souls, mais pas que. Parce qu'en fait, le résumé à ça, ça serait un peu con, je trouve. Ne serait-ce que parce que il y a un village que tu vas devoir gérer dans Ocean. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas recruter des PNJ dans cet univers qui vont venir construire des maisons dans ton village, etc. C'est un espèce d'univers post-apo où, en fait, la lumière avait disparu et d'un seul coup, elle est revenue. Et ton objectif, ça va être de la protéger. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'il a des petites originalités. Bon, je vous ai déjà parlé du village qu'il va falloir reconstruire et moi, vous savez, dès qu'il y a ce genre de feature dans un jeu vidéo, je suis déjà client. Ça plus le fait que ils ont eu une idée par rapport aux Souls, c'est que vous savez, les Souls, quand il y a d'autres joueurs en général qui pop dans le jeu, c'est pour venir vous poutrer la gueule en fait. Et là, ils se sont dit non, on va faire autre chose. Les autres joueurs en fait, ils vont prendre l'apparence des PNJ du jeu. Ils vont du coup pouvoir vous filer un coup de main s'ils veulent, etc. Et si vous, éventuellement, vous êtes hors ligne, de toute façon, ces PNJ, ils seront gérés par l'IA. Donc, il y a un côté multi qui est assez immersif, je trouve. Ça, plus le fait qu'encore une fois, j'aime beaucoup la direction artistique. Il y a un côté, tu sais, très low poly, très... ça ressemble un peu à Absolver, vous savez, le jeu de combat ouais. français qui est sorti récemment, là. J'aime beaucoup cette direction artistique-là. Le seul reproche que j'ai, c'est que, franchement, les mecs, vous auriez pu mettre des visages, quoi. C'est comme oui, s'ils avaient rien, quoi. Enfin, c'est très bizarre. Ça fait un peu... ouais, j'avais la flemme, quoi. Par contre, le décor absolument magnifique. Il me tarde de tester ce jeu. Ah oui, et dernier petit reproche aussi. Moi, j'ai un petit problème avec les feedbacks sonores durant les combats. C'est-à-dire que quand tu tapes les ennemis, ça, pour le moment, j'ai l'impression que les mecs, ils tapent un peu un bout de bois, tu vois. Enfin, ça manque un peu de punch, quoi, on va dire. Voilà.
Bah, ça a l'air intéressant. Bon, après, t'as dit Souls, du coup...
Non, mais après, j'attendrai d'en avoir Souls, fait. Hein. Mais honnêtement, de ce que tu vois, ça a l'air quand même très accessible. C'est plus inspiré dans l'ambiance, on va dire. Voilà, quoi. Enfin, après, faut pas non plus... Moi, en fait, si tu veux, ce qui me gêne à chaque fois que je dis Souls, c'est que les Souls, il y a un certain nombre de critères à l'entrée, si tu veux, pour les fans de Dark Souls. Et j'aurais plus tendance à dire un action RPG vaguement inspiré de Dark Souls avec plein de nouvelles features dedans, voilà.
T'aurais pu faire pire, hein. T'aurais pu faire comme un journaliste qui a qualifié de Crash Bandicoot, là, le remaster qui est sorti, de Dark Souls de la plateforme.
Voilà.
Très bien.
Il faut arrêter de mettre
en fait,
du Dark
Souls
partout,
c'est juste qu'il est pas doué, le gars,
quoi.
C'est tout.
Dès qu'un jeu difficile, ce n'est pas du Dark Souls. C'est pas Dark Souls qui a inventé la difficulté, hein. Mais
ouais, bon, disons que là c'est quand même assez évident, t'as une gestion de l'endurance, etc. Ah oui, un dernier truc que j'aime bien aussi, c'est que y a pas de niveau dans ce jeu en fait. La progression du personnage, elle va se faire par le matos que tu vas récupérer. Voilà. Okay. Bon, on va maintenant parler du fail de cet été.
Ouais.
Et le fail de cet été, bah, c'est Just Survive hashtag #HAZADA, n'est-ce pas? Je rappelle que à la base, on avait #H1Z1, le jeu de survie. Puis à un moment donné, ils ont sorti un mode Battle Royale dessus, ils se sont dit « Bon écoute, le jeu de survie fait pas assez d'argent, donc du coup on va le on va le mettre dans le placard, on va l'appeler Just Survive, et puis le Battle Royale on l'appellera H1Z1 ». Et puis bon, alors il se trouve que Just Survive avait une mort à petit feu, et on va dire qu'il y avait H1Z1 derrière qui remplissait les caisses, sauf que malheureusement PUBG et Fortnite sont passés par là.
Ouais.
Sont passés par là entre temps. Et du coup, bah, comme H1Z1 est un peu crevé, bon, apparemment, ils ont eu un investisseur coréen, je crois, qui a mis du pognon dessus. Mais par contre, Just Survive, ça y est, c'est fini, merci, au revoir. Il n'y a plus assez de joueurs pour que ce soit intéressant pour eux. Et du coup, ils ont décidé de débrancher le jeu. Et pour moi, c'est symptomatique de énormément de jeux en accès anticipé. Je trouve quand même ça assez scandaleux de voir ce résultat-là, surtout quand tu vois les moyens qu'ils ont eu à un moment donné, et que tu compares ça par exemple avec un Subnautica, dont on va parler ensuite, qui lui, pour le coup, avec peut-être même moins de moyens, a réussi à faire quelque chose d'absolument magnifique, comme quoi l'accès anticipé et le manque de moyens n'est pas une excuse à tout, n'est-ce pas?
Oui, c'est vrai que c'est pas une fatalité. Et effectivement, il y a des bons exemples ailleurs, comme Subnautica. Après, je pense que il a pas bénéficié d'une conjoncture très favorable non plus avec les sorties coup sur coup de PUBG Fortnite. Bon, dès que PUBG est sorti déjà, on a senti que H1Z1 c'était fini. Puis alors après Fortnite, laisse tomber.
Surtout quoi. Qu'en plus, comme maintenant ils avaient deux jeux à gérer, tu vois, ils avaient un autre problème, c'est que dans le segment jeu de survie, bah il y avait du peuple, quoi.
Mais il y a toujours eu du peuple hein, dans le jeu de survie.
Oui, et... mais c'était en fait sa chance à H1Z1, c'était que c'était un des premiers ouais. sur le créneau. Après DayZ, ah tiens, un autre jeu qui a fait de la merde. c'était un des premiers sur le créneau. Le problème, c'est qu'il y a des meilleurs jeux qui sont sortis ensuite, quoi.
C'est ça.
Dont notamment le jeu dont on va parler maintenant, Mandren.
Ouais, on va parler de Subnautica. Bon, vous le savez, c'est le jeu est sorti d'Early Access cette année. Peut-être même l'an dernier, fin d'année dernière. Subnautica, pour rappeler, c'est un jeu qui vous catapulte dans une planète qui est quasiment intégralement faite d'eau. Vous êtes un membre d'équipage d'un vaisseau spatial qui s'écrase, en fait, sur cette planète. Vous essayez de vous en sortir, évidemment, donc il y a des composantes, évidemment, de survie aquatique. Et l'air de rien, un scénario qui est plutôt bien ficelé et qui prône vraiment la découverte.
et qui est raconté de manière immersive aussi. Enfin, ouais. C'est très organique la manière dont c'est fait, quoi.
Et c'est notamment le côté exploration qui va vous pousser petit à petit vers les profondeurs pour découvrir plus de choses et plus de choses éventuellement flippantes. C'est très très intéressant à jouer et c'est par beaucoup encore considéré comme un des jeux de l'année.
Et la référence du jeu de survie, surtout.
Ouais. Enfin... Et du coup, vous le saviez certainement, mais les développeurs Unknown Worlds ont prévu une extension qui s'appelle Below Zero, donc en dessous de zéro, qui est une extension qui va vous proposer du nouveau gameplay dans des régions glaciaires. La nouvelle qu'on a eue cette semaine, c'est que ça ne sera pas qu'une extension, ça sera un standalone. Ce standalone va prendre la voix de son aîné, c'est-à-dire que ça sera d'abord un early access, et ensuite ça sortira en version pleine. Évidemment, faites attention si vous voulez garder votre plaisir de la découverte, attendez peut-être que le jeu soit sorti d'early access, moi je pense que c'est ce que je vais faire, parce que c'est comme ça que j'ai découvert Subnautica, et je pense que c'est la meilleure expérience qu'on puisse avoir.
C'est surtout que là, en plus, encore les débuts de Subnautica... Tu pouvais te dire, il y avait des features qu'on n'a pas retrouvées dans le jeu original, tu vois. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, on pouvait creuser dans Subnautica à la base, et il y a des gens qui ont pu découvrir le jeu sous une autre forme. Mmh. Là, je veux dire, le gameplay du jeu, il est polish, entre guillemets, enfin, il est fixe, on va dire. Et du coup, je vois pas l'intérêt de le tester en accès anticipé, à moins qu'il rajoute vraiment des nouvelles features de ouf. Je pense que c'est un jeu qu'il vaut mieux découvrir une fois qu'il est bien polish.
Ouais.
Et pour terminer, aussi, ne regardez pas trop Twitch, ne faites pas comme moi. Voilà.
Ouais.
C'est aussi un autre conseil qu'il faut donner aux gens. Parce qu'il y a des jeux comme ça qui se prêtent mal à Twitch, et pour moi, Subnautica en fait partie. Enfin, en tout cas, qui se prêtent mal à Twitch quand tu veux jouer au jeu derrière.
Oui, voilà. C'est ça. À savoir également que au-delà du côté glaciaire du gameplay, il y aura évidemment les vaisseaux qui sont disponibles dans le jeu, plus un nouveau, un espèce d'aéroglisseur qui permettra de faire un petit peu d'exploration terrestre, ce qui n'était quasiment pas le cas dans Subnautica. Donc ça pourra intéresser les gens en termes de nouveautés.
Tout à fait. Un jeu qui a, pour le coup, été très 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 bien géré. On passe ensuite à la news trop lolo de la semaine. Et la news trop lolo de la semaine, c'est 2K qui a pété une durite. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, nos voisins belges ont eu la très bonne idée de bannir les lootbox, n'est-ce pas ? Il y a plusieurs éditeurs qui se sont pliés à la commission des jeux belges. On a eu notamment Valve qui a dû faire machine arrière, on a eu Blizzard qui a dû faire machine arrière aussi. Bon, ils ont un peu rouspété, mais ils s'y sont pliés, tu vois. Et il y a un autre éditeur qui a rouspété cette semaine, enfin cette semaine, ça date un peu, c'est 2K. Ouais, mais non, vous faites chier là les mecs, dites les joueurs, est-ce que vous pourriez contacter pour nous les représentants locaux, histoire que voilà, on remette des loot box et que vous puissiez nous donner plein d'argent, merci beaucoup.
C'est un peu ça. Bon, évidemment, ils te le passent un peu différemment, en mode oui, on va essayer d'expliquer comment ça marche chez nous, ces loot box, et pourquoi on a l'impression que ça rentre quand même dans vos guidelines. Si vous pouviez nous aider aussi à faire la même chose chez vos représentants, ça serait encore mieux. Bon, à savoir que c'est une stratégie qui se fait assez régulièrement aux US. Le côté on a besoin de vous pour que vous en parliez à vos députés, vos représentants, etc. Ça a l'air d'être la même stratégie qui est employée ici par 2K.
Ouais, sauf que ça passe moins bien en Europe, ce genre de truc, et puis même, enfin, ça fait un peu genre, dis, tu veux pas te mettre la corde au cou, s'il te plaît Les gens, je vous explique, si on a râlé pour les lootbox, c'est pas pour aller écrire à notre député, déjà qu'on lui écrit pas beaucoup, à notre pauvre député. Alors, franchement, si un jour j'écris à mon député, ça sera pas pour lui demander de me mettre des lootbox, hein. Je sais pas si c'est une bonne stratégie, en fait, de com, votre truc-là, voilà. Bon, on passe à la suite, messieurs ?
Ouais.
On va maintenant parler de Steam, mon cher Morgan.
Oui, comme toutes les semaines, finalement, hein, c'est une reprise, donc on va évidemment garder notre petit moment Steam de la semaine.
Bah, en fait, ouais, c'est ça, on va appeler ça le point Steam.
Oui, mais c'est vraiment ça. À savoir que, bon, ça fait très très longtemps qu'on vous en parle, le côté curation par Valve et le côté surtout non curation et son acceptation d'un certain nombre de choses sur son store, ça fait un moment qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ça commence un petit peu à sortir les doigts du cul chez Valve, notamment en ce qui concerne les contenus sexuels, violents, comportant de la nudité également. À savoir que Steam a mis en place un système où vous allez pouvoir cliquer sur des filtres avec des tags bien spécifiques du genre violence, sexualité, nudité, des choses dans ce genre-là.
On précise que les tags étaient déjà en place, mais là on va dire qu'ils vont faire en sorte d'insister très fortement auprès des développeurs pour qu'ils décrivent assez précisément le type de contenu.
C'est ça.
Auquel on doit s'attendre.
Voilà. Ouais. Ce qui permettra du coup à Steam de vous afficher quand vous allez vous diriger vers une page de magasin d'un contenu qui comporte ce genre de choses. Par exemple, on peut penser à Left 4 Dead 2. Avant que vous arriviez sur la page, il y aura écrit « Ce jeu contient certains contenus avec par exemple de la violence fréquente, du gore, etc. » Et en plus, en dessous de ça, vous avez le développeur qui va vous décrire précisément de quoi il s'agit. Et ce, avant même que vous ayez accès à la page du magasin, donc avec le trailer, etc., etc. Donc il y aura la même chose, évidemment, avec les scènes de nudité et puis les contenus sexuels.
Voilà, c'est quand même mieux qu'une interdiction bête et méchante. Hein.
Voilà, c'est déjà mieux. Et en plus de ça, Valve a défini ce qui était considéré comme le trolling sur Steam. On en avait parlé déjà à l'époque.
Bah, disons que la définition était tellement vague que c'était un peu genre la licence to kill, tu vois. Oh, je fais ce que je veux, en fait.
Ouais. Voilà. Bon, là, c'est peut-être un poil plus descriptif, mais ça reste un petit peu à la tête du client, j'ai l'impression. On nous dit qu'en fait, il y a un certain nombre de développeurs qui proposent des choses qui, selon les critères de Valve, peuvent être considérées comme un jeu vidéo qui fonctionne. Donc c'est le seul critère hein, qu'on connaissait à l'époque pour qu'un jeu puisse arriver sur le store de Valve. Mais ce qu'appelle Valve du troll, c'est le côté... c'est une espèce d'arnaque à la vente, selon eux.
En gros, ils parlent des assets flip, là, en
exactement.
Fait, hein, pour être très clair. Les jeux, vous savez, faits en une semaine sur Unity Top Chrono, où on t'achète des assets sur le store de Unity, on t'assemble ça vite fait, on dit « Ah ouais, ça y est, ça fait un jeu ». Donc ça, a priori, ce genre d'arnaque, parce que pour moi, c'est ça, ça va être banni du store. Ouais. Bon, maintenant... Reste à voir s'ils vont vraiment faire le tri, quoi.
Ça peut l'être, en tout cas. C'est comme ça qu'ils le décrivent, et donc, du coup, qu'ils s'ouvrent la porte à une potentielle modération quand ils en auront besoin. Ils parlent également, donc, des asset flips, comme tu le disais, mais aussi des contenus, et ça, c'est peut-être un poil plus compliqué à définir, c'est des contenus qui sèment la discorde. Donc là, on peut penser, par exemple, à des contenus ouvertement nazis, etc., etc. Donc ça, a priori, ça rentre dans leur catégorie de jeux qui trollent et qui peuvent, du coup, être amenés à être bannis de leur store. Donc, l'air de rien, ça fait un moment qu'on en parle, hein, de ces choses-là, et ça y est, enfin, il y a Valve qui bouge un petit peu sur son store, et c'est quand même plutôt bienvenu.
Après, je sais pas si vous avez remarqué, il y a eu du mouvement chez les gros éditeurs cet été. Notamment, là, le dernier en date, c'est Bethesda, qui a dit que c'est Fallout 76, je crois.
Ouais.
Ne sortirait pas sur Steam.
Oui, c'est vrai.
Et ça, c'est gros.
Enfin, ouais, c'est très gros.
Il y a de plus en plus d'éditeurs qui commencent à dire que la part qu'on nous prélève sur les ventes, ça justifie pas le service qui nous est fourni, en fait.
C'est vrai.
Et du coup, j'ai l'impression que ça pousse aussi Valve d'un autre côté à commencer à faire des choses, quoi. Et à se recentrer un peu sur Steam, parce que ces dernières années, ils étaient plus trop recentrés dessus, quoi.
On a eu le même cas, c'est Fortnite qui s'est passé du Google Play Store pour son arrivée sur Android. C'est pas rien hein, comme choix, et c'est aussi... Alors évidemment, il y a une part économique là-dedans, mais je pense qu'il y a aussi une part de pression sur ce genre de gros store-là, qui, selon certains éditeurs, ne font pas encore assez bien leur taf. Et... Effectivement, c'est le a priori, c'est le seul moyen qui fait que ça bouge, puisque regarde, Valve est en train de faire quelque chose enfin.
Ça, plus le fait que, quoi qu'il en soit, les éditeurs ne veulent plus entendre parler de 30% de commission. Hein. 30% des ventes d'un jeu, tu sais, ils commencent à faire leurs calculs et ils se disent, alors attends, ils me prélèvent 30%, si je dégage du store, sachant que ma licence est assez connue, est-ce que je vais pas quand même rentabiliser mon jeu, quoi. On en est là.
Ah oui, quand même.
Bon, on va passer maintenant au moment où Atesh va se réveiller, n'est-ce pas? Ce moment, c'est celui de Cyberpunk 2077 qui a été dévoilé. Messieurs, qu'avez-vous pensé de cette vidéo de 45 minutes, je crois, qui, en gros, est le trailer très clairement...
la présentation de l'E3.
...vidéo de gameplay qui avait été diffusée à l'E3. ATH, est-ce que tu as aimé ce que tu as vu?
Pas vraiment, en fait.
Ah, alors, attention, il va y avoir de la discussion, là. Allez, on dit ATH.
Bah, en fait, j'ai pas aimé l'univers. C'est-à-dire que... Ok, le jeu s'appelle Cyberpunk, mais je trouve que c'est trop cliché, en fait. Tu vois, les punks à Crète et tout, enfin, c'est des trucs qu'on a vus et revus.
Bah, ces dernières années, le cyberpunk, c'était plus trop ça, justement. C'est là où je suis pas trop d'accord avec
ouais,
toi.
Ouais, mais le côté un peu, tu vois, old school, qu'il y avait avant et qu'on a vu dans plein d'œuvres. Et du coup, tu vois, ça m'a un petit peu déçu, mais c'est pas le plus gros point qui me dérange, parce que ça, on va dire que encore, ça, c'est les goûts, les couleurs. Mais moi, ce qui me dérange le plus, en fait, c'est que le jeu, il est en vue FPS et que le jeu, il est pas à la troisième personne.
Ça y est, j'étais sûr.
Non, en fait, c'est pas vrai. C'est juste que les gens qui ont créé cette polémique-là, enfin, je comprends pas pourquoi les gens, ils se plaignent que le jeu, il est en FPS. Alors que, enfin, un vrai FPS comme ça, avec des composantes RPG, il y en a pas des masses.
Bah, il y a Fallout quand même.
Ouais, mais, enfin, Fallout, le côté FPS, il est nul à chier. Qui joue à Fallout pour le côté FPS, quoi?
C'est toi qui l'as dit, hein, ce n'est pas moi.
Non, mais moi, j'ai joué à tous les Fallout. Enfin, au récent, en tout cas. Franchement, le côté FPS, c'est le truc le plus dégueulasse du jeu. On sait très bien que dans tous les jeux Bethesda, ceux qu'ils ont l'habitude de faire là en monde ouvert, que ce soit The Elder Scrolls ou bien les Fallout, l'aspect combat, c'est le truc le plus pourri dans leur jeu. Mais c'est vrai que ouais, la polémique par rapport à ça, enfin, elle est complètement débile. Mais le truc qui m'a déçu un peu, c'était en fait l'aspect conduite et tout ça. Je trouve que c'est vraiment mollassant et tout, et ça manque un peu de pêche, quoi.
Après, je t'avoue que personnellement, ça me dérange pas plus que ça parce que la bagnole, bon. C'est pas ce qui m'intéresse dans un RPG, quoi, on va dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'a plu dans ce trailer, c'est les embranchements de quêtes. Il y a un côté hyper immersif dans le jeu, je trouve. Je sais pas si vous avez remarqué, au début du jeu, quand elle a un flingue, il y a pas de, tu sais, de compteur de munitions, par exemple, tu vois. Et puis, quand elle va voir le doc et qu'elle se fait installer son augmentation, ça installe le compteur de munitions. Ça, plus le fait que il parle aussi des quêtes annexes qui vont avoir un impact sur les quêtes principales, etc. Enfin, il y a un côté embranchement dans les quêtes, moi, qui me donne le vertige, quoi, en fait. Et c'est pour ça que j'attends beaucoup le jeu.
Non, mais après, moi, l'aspect écriture et tout ça, je pense que c'est des projets qui vont faire du bon boulot. Ils l'ont déjà montré par le passé. Le côté RPG, j'ai pas de doute là-dessus. Mais moi, le truc qui, en fait, qui m'embête un peu avec Cyberpunk, c'est la presse. Ils en ont fait tellement un pataquès, tu vois, que, ouais, le jeu, il a l'air d'être... ouf techniquement et tout ça, et finalement, tu vois, quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, c'est pas si ouf que ça, quoi.
Bah, justement, moi, ça m'a limite rassuré, en fait, parce que j'avais pas l'impression de voir un Watch Dogs, si tu vois ce que
non,
je veux
non,
dire.
Non, non, bien sûr, ah oui, non, mais après, on se rappelle que The Witcher 3, quand la première fois qu'il avait été monté, c'était un jeu ultra beau, et quand il est sorti, il y avait eu aussi un downgrade, hein, c'est des projets qui l'ont déjà fait. Là, je pense qu'ils ont eu peur, justement, de ce côté-là, donc du coup, ils ont pas voulu en mettre trop plein les yeux pour que les gens soient déçus au final. Mais en tout cas, on sent qu'ils maîtrisent quand même le moteur, parce que les effets de lumière et tout ça, c'est génial.
Moi, ce qui m'a impressionné, surtout, c'est le nombre de PNJ à l'écran, quoi. Ça fait pas... Ouais, je suis dans une ville, mais en fait, c'est vide, quoi. Il y a un côté vivant dans le jeu, quoi.
Ouais, bien sûr. Ça, c'est... Je pense que on n'est pas dans The Witcher, où c'est des villages où il y a trois pectos qui se battent en duel. Là, c'est... Ils veulent vraiment faire une ville vraiment immense et tout ça. Mais tu vois, comment dire... Moi, ce qui m'intéresserait sur ce cyberpunk, c'est vraiment voir où ils vont pousser la narration. C'est-à-dire qu'ils peuvent... tu vois, The Witcher, tu incarnes Geralt de Rive, qui a déjà son histoire, un auteur a écrit sur lui, tout ça. Alors que là, cyberpunk, finalement, t'es dans l'univers du cyberpunk, mais tu vas incarner toi-même, enfin, tu vas incarner le personnage que tu veux. Et ça, du coup, je pense qu'ils ont plus de liberté par rapport aux personnages qu'ils veulent faire mourir, montrer peut-être des choses un petit peu crues.
Il y a des choses crues d'ailleurs, hein, dans la vidéo de présentation.
Ouais.
Ce que j'ai le plus apprécié, moi, c'est le passage au début où t'as des mecs qui découpent les gens pour récupérer leurs implants, etc. Ok, d'accord, cyberpunk, voilà. On n'est pas là pour rigoler, quoi. Et puis à la fin, ils arrivent, t'as l'espèce d'ambulance avec des mecs en armes qui sortent de là et qui te mettent en joue direct. Ils te disent, ah, au fait, ça, ces mecs-là, ils sont armés parce que c'est une assurance de luxe et tout, que la nana allait payer. Et du coup, ils viennent la récupérer en mode en mode commando et tout. Ça dit tout de suite que, en fait, t'es dans un quartier où c'est hyper chaud et ça installe un truc, quoi.
Ouais, bah, ça va être intéressant de voir jusqu'où ils vont aller... dans le critique de la société aussi, parce que ça va être un petit peu de l'anticipation qui va être fait dans ce jeu-là.
Bah là, c'est le principe du cyberpunk. Le cyberpunk, c'est je prends tous les trucs qui vont pas dans la société et je mets le curseur à fond.
Et du coup, moi, c'est ça qui m'intéresserait le plus dans le jeu, parce que là, le jeu, quand même, tu vois, je l'attends, même si j'étais un petit peu déçu, on va dire, par l'aspect mec à crête un petit peu partout. Mais après, tu vois, par exemple, il y a des personnages que je trouve cool. Par exemple, le mec qui donne la mission, là, l'espèce de black baraqué qui fait penser un peu à Rick Ross, là, le rappeur. Et il est là, son chauffeur, il te pendant en fait qu'il te donne le briefing, et bah il te déplace dans la ville, tu vois. Et du coup, ça apporte encore un peu plus dans l'immersion.
Il y a un souci du détail. Moi, c'est ça que j'ai aimé voir aussi. C'est par exemple, tu sais, quand il te donne le briefing, qu'elle s'en fiche dans sa nuque pour lire la carte. Quand elle va voir son pote derrière, je sais pas si t'as remarqué, elle lui donne la carte pour qu'il ait briefing.
Ouais,
et ça reste cohérent, tu vois. Enfin, il y a vraiment un souci du détail à la con, quoi. C'est super.
Ouais, bien sûr. Et puis même. En plus de ça, on sait que le jeu est jouable du début jusqu'à la fin. Et là, ils vont se concentrer à peaufiner le truc, quoi. Le temps d'attente a été long pour qu'ils le montrent. Mais quand ils montrent quelque chose, tu vois, ils montrent quelque chose de concret. Ils te font pas un espèce de truc à la Watch Dogs qui te montre un truc totalement hallucinant que même aujourd'hui, je pense, avec les grosses configs PC, tout ça, tu fais pas tourner comme il avait montré. Là, je pense que c'est plus réaliste. Et du coup, ouais, c'est cool que c'est des projets qui passent à autre chose que l'univers de Sursolaire, quoi. Et on va voir ce qu'ils vont faire, parce que finalement, ils ont pas fait beaucoup de jeux. Hein.
Ouais. Marwan, quelque chose à ajouter sur Cyberpunk ?
Non, moi j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. En fait, je suis un peu d'accord avec vous deux. La ville en elle-même, moi, me laisse un peu froid. Mais je pense que c'est un peu le but. C'est le genre qui veut ça. Je suis intéressé par l'univers pour autant. Et surtout par la narration comme toi, Tyran. J'ai beaucoup aimé comme toi la première séquence. Et puis la scène de tir aussi assez bluffante.
Il y a du punch, on va dire.
Ouais, je reste un peu dubitatif. Par contre, j'attends de voir si c'est un jeu qui sera pour moi ou pas. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, ça va être la narration là-dedans, plus que le gameplay. Tout en sachant que c'est peut-être pas forcément un genre que j'affectionne plus que le médiéval fantastique, mais je reste très très curieux parce que bon, c'est CD Projekt, quoi.
Ouais. Maureen, tu vas garder la parole.
Ouais.
On va passer à la discussion de la semaine.
Ouais. Est-ce que Fallout est un bon FPS? Non, parce que pourquoi
la réponse, non, merci,
voilà,
au revoir.
Parce qu'il faut pas, il y a pas que moi qui dois mouiller, Mordrain, tu dois répondre aussi.
Tu sais, les Fallout, j'y ai pas joué, donc ça veut peut-être tout dire.
Voilà, Totem d'immunité, il a sorti, merci, au revoir.
Voilà.
Allez, l'e-sport aux Jeux Olympiques, Mordrain.
Ouais, l'e-sport aux Jeux Olympiques, c'est une question qui a été un peu, débattu déjà par le Comité international olympique, puisque ils ont fait une espèce de séquence de tests à Lausanne dans leur QG, c'était cet été, pour justement débattre de cette question. Et bon, le président du Comité international olympique, qui s'appelle Thomas Bach, y a répondu au moment de sa présence aux Jeux de l'Asie qui sont organisés en ce moment en Indonésie. Il a expliqué que pour lui, les jeux e-sportifs étaient trop violents. Pour la plupart d'entre eux, le principe, c'était de tuer son prochain et que ça ne correspondait pas aux valeurs de l'olympisme pour lui. Alors évidemment, il s'est bien douté de la réponse que les gens allaient lui donner, notamment sur les sports de combat. Il dit en fait bien sûr que chaque sport de combat a dans ses origines un combat réel entre deux personnes, mais le sport est l'expression civilisée de ces choses-là. Si vous avez des jeux électroniques où le principe c'est de tuer quelqu'un, ça ne peut pas être sur la même ligne que les valeurs olympiques. Voilà sa réponse. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, O?
Alors, disclaimer, je trouve son discours totalement bidon. Pourquoi? Parce que aux Jeux Olympiques, et les échecs, et je rappelle pour ceux qui auraient oublié, les échecs c'est deux armées qui s'affrontent, hein, à la base, et qui se tuent. Hein. Non, bah, je sais que c'est de manière figurative, mais c'est le principe. Vous voyez. Donc pour moi c'est totalement bidon, mais c'est pas pour autant que je suis pour l'e-sport aux Jeux Olympiques. Et en fait, pourquoi je voulais parler de cette news cette semaine, parce que j'avais envie de dire à ce monsieur, écoutez, si vous voulez, je peux prendre votre com, je peux vous donner des bonnes raisons en fait, parce que je trouve votre raison un peu bancale, un peu bidon. Moi j'ai d'autres raisons en fait qui pourraient justifier qu'on ne veuille pas de l'e-sport aux Jeux Olympiques. Et moi j'en ai une notamment. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le foot c'est une discipline. Le basket, c'est une discipline. PlayerUnknown's Battlegrounds, ce n'est pas une discipline, c'est un produit. On ne parle pas de discipline, on parle de produit. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment le rôle du CIO de faire la promotion, je sais pas moi, de Fortnite, de League of Legends Et surtout, est-ce que les Jeux Olympiques ont vraiment envie d'être dépendants d'une entreprise tierce. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne suivent pas l'e-sport, il y a ce qu'on appelle dans le milieu la méta. La méta, qu'est-ce que c'est? C'est l'éditeur du jeu qui décide, je sais pas, moi, tous les 3 mois, de changer un truc, qui bouleverse le jeu, tout simplement, et qui fait en sorte de renouveler l'expérience, on va dire. Et ça, pour moi, je suis désolé, même si j'apprécie beaucoup l'e-sport, je trouve que ce n'est pas compatible avec un événement comme les Jeux Olympiques, qui est un événement, on va dire, où on a des disciplines qui sont millénaires, où il y a des règles qui évoluent assez peu, qui sont assez compréhensibles, et où finalement, je vois pas ce que viendraient faire des produits là-dedans. Et surtout, à un moment donné, si on commence à dire que l'e-sport doit être aux Jeux Olympiques, moi je pose la question, sur quels critères on sélectionne les Jeux qui doivent figurer là-bas? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait le jour où les Jeux s'arrêtent? Si, par exemple, je sais pas, moi, pour une raison X ou Y, PUBG demain, par exemple, ça marche plus, et que le jeu s'arrête complètement, on ferme les serveurs, on retire la discipline des Jeux Olympiques parce que PUBG est plus rentable? Enfin, ça n'a aucun sens. Alors, moi, je pense que si on avait, par exemple, des jeux open source, tu vois, genre un jeu qui est censé représenter le FPS, un jeu qui est censé représenter le jeu stratégique, pourquoi pas, à la limite. De toute façon, si l'éditeur ferme ou que, voilà, il y aura toujours quelqu'un pour entretenir ces jeux. Mais là, on parle de produits qui ont une durée de vie limitée. Et ça, pour moi, c'est pas compatible avec les Jeux Olympiques, tout simplement. Dernière chose, est-ce que l'e-sport a vraiment besoin des JO? Voilà.
Je suis assez d'accord avec toi sur le côté produit et finalement publicité qu'apporteraient les JO à certains produits et pas d'autres. Bah, typiquement, par exemple, parce que là, il répond non, les jeux e-sportifs sont trop violents. Ils sont pas tous trop violents. Regarde, par exemple, FIFA, c'est un jeu e-sportif. Il y a pas de violence dedans.
Il y a des tacles quand même.
En revanche, non mais enfin, en dehors de l'écran, il pourrait y en avoir effectivement. Mais bref, si le CIO étudiait par exemple l'entrée de FIFA dans les Jeux Olympiques, qu'est-ce qui ferait qu'on choisirait spécifiquement FIFA et pas PES, par exemple?
FIFA est plus vendu que PES, donc y a pas de débat.
Non mais bien sûr, mais tu vois, c'est...
Ça veut dire que la présence d'un jeu aux Jeux Olympiques, ça dépend de la popularité du jeu. Mais c'est pas compatible avec l'esprit des Jeux Olympiques, parce que Dieu sait que les Jeux Olympiques, c'est typiquement la compétition où il y a tout un tas de trucs dont on se bat normalement les couilles, quoi. C'est...
Il y a quand même du curling.
C'est bon, tout le monde s'en fout, quoi. C'est...
Je voulais revenir sur une deuxième chose. Ce qui est rigolo, c'est que cette annonce est faite en septembre, alors qu'en février, on a eu les Jeux Olympiques d'hiver. Et juste avant les Jeux Olympiques d'hiver, donc qui se tenaient en Corée, il y a eu un événement qui était soutenu par le CIO, et c'était un événement e-sportif de StarCraft 2.
StarCraft 2, c'est pas le jeu qui est mort
Alors, bon, évidemment, bon, StarCraft 2, on en pense qu'on veut, mais c'est quand même un jeu dont le principe est quand même d'utiliser sa propre armée pour défoncer celle de l'adversaire. Ce tournoi était soutenu par le CIO. Du coup, quelle est la logique? Alors effectivement, peut-être que c'était parce que c'était organisé en Corée et que en Corée on est très très fort à StarCraft 2. Je sais pas, mais c'est bizarre quand même que 7 mois plus tard on dise maintenant en fait c'est trop violent.
Et moi, il y a aussi un truc qui m'a dérangé, tu vois, c'est que quand j'ai lu des articles qui parlaient de ça, notamment chez nos amis américains, il y avait aussi un discours en mode oui, mais si on refuse les jeux violents, vous rendez compte, tout le monde s'en foutra parce que les jeux les plus populaires ne seront pas là, tu vois. Ouais, mais en fait, le principe des Jeux Olympiques, c'est pas forcément d'avoir les jeux les plus populaires aux JO, quoi. Enfin, ça pose un problème, quoi. Enfin, à un moment donné, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que un produit a sa place aux JO? Pour moi, non. Parce que pour moi, les Jeux Olympiques, alors certes, il y a tout un aspect communication autour, il y a des équipementiers qui sont leur beurre là-dessus, etc. Mais le cœur du sujet des Jeux Olympiques, ça reste la discipline, tu vois, la discipline sportive. Et malgré le fait que, oui, je respecte énormément les joueurs e-sportifs, etc., ils ont un niveau de fou et je pense qu'il faudrait organiser des événements spécifiques à l'e-sport, mais par contre, pour moi, des produits n'ont pas leur place au JO, tout simplement, parce que ils ont, par définition, une durée de vie limitée. Et que on va pas s'amuser tous les 4 ans à changer le jeu. Et puis même si on garde les mêmes jeux, on ne comprendra plus rien parce que la méta du jeu aura changé et que la méta elle change pourquoi ? Parce que c'est un produit et qu'il faut bien renouveler l'intérêt du jeu. Enfin, typiquement, tu vois, il y a des problématiques qui sont spécifiques à l'e-sport, qui pour moi les rendent incompatibles avec les JO, quoi, tout simplement.
Ouais, et puis, enfin, je trouve que c'est pas leur place, en fait, déjà de une. Et si il devrait y avoir quelque chose comme ça d'e-sport, et bah pourquoi pas une Coupe du Monde d'e-sport, tu vois, qui serait organisée peut-être tous les 4 ans, comme les Jeux Olympiques, pour pas se faire chier pour les jeux les plus populaires. Et ils font un événement retransmis voilà sur internet etc, parce que voilà l'e-sport ça se prête bien justement à l'internet, tu vois. Enfin, je ne vois pas pourquoi les jeux vidéo devraient arriver comme ça aux Jeux Olympiques. Ça n'apporterait pas grand chose. L'e-sport c'est quelque chose qui, contrairement on va dire aux Jeux Olympiques, je pense que ça intéresse beaucoup moins de monde, tu vois. Moi qui suis pourtant un adepte de jeux vidéo, l'e-sport ça m'intéresse pas, tu vois.
Bah le problème de l'e-sport c'est que quand tu connais pas le jeu, tu te fais chier, voilà, en fait hein, tu comprends rien à ce qui se passe. C'est ça aussi le gros problème. Alors que par exemple, je sais pas, moi jouer un match de boxe, je comprends tout de suite ce qui se passe sur le ring, tu vois.
C'est ça.
L'e-sport franchement, tu commences à expliquer le jargon de League of Legends ou de Dota, c'est encore pire. C'est pas possible. Tu sais jamais, tu expliques ça de manière simple à quelqu'un qui connaît juste pas le jeu, quoi, en fait. C'est pas possible.
Ouais, et puis même, enfin, moi, on va dire, les seules compétitions e-sport que je suis, c'est les compétitions des jeux de combat, parce que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Même si je suis très mauvais aux jeux de combat, bah, j'aime beaucoup regarder, surtout, tu vois, les émissions que Ken Bogard y fait. Mais t'imagines, tu mets Ken Bogard à la télévision qui commente un match de Street Fighter V? Déjà, il faudrait expliquer aux gens les notions de frame, de timing, d'input, de carte cercle. Enfin, quand il va dire, ouais, Ryu fait un Hadoken, puis un point dragon. Enfin, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Tu vois, enfin, les gens ne comprendront rien. Et les jeux de combat ont leur propre événement tous les ans qui est l'Evo, tu vois. Bah, pourquoi pas, les FPS auraient leur propre événement, etc. Enfin, même en termes d'audience, tu vois, ça serait comme regarder du curling en fait à la télé, parce que les gens qui veulent regarder de l'e-sport, ils savent très bien où aller pour regarder de l'e-sport. Ils ont pas attendu la télévision. Maintenant, les gens délaissent de plus en plus la télévision, surtout les gens de moins de 30 ans. Ils vont sur YouTube, ils vont sur Twitch. Enfin, ils savent où aller pour avoir les choses qui les intéressent. Et puis, juste pour finir de répondre au monsieur qui disait oui, les jeux vidéo c'est trop violent, etc. Certes, il y a de la violence dans les jeux vidéo, mais dans ce cas-là, si tu veux vraiment faire acte de bonne foi et proposer du jeu vidéo aux Jeux Olympiques, pourquoi ne pas proposer des speedruns, tu vois, en mode non létal. Et comme ça, là, tu vois, les gens, ils pourraient voir des performances, parce que le speedrun, c'est quand même une performance où les gens joueraient aux jeux vidéo de manière non violente. Par exemple, la run, ça serait de ne tuer aucun ennemi. Hop, et ben
ouais,
voilà.
Et puis, là, honnêtement, pour terminer sur la violence, je trouve ça tellement bidon. Je veux dire, regardez la boxe. S'il vous plaît, quoi. Les mecs, des fois, ils s'ouvrent la carte sourcilière ou des trucs comme ça. Tu vas pas me dire que c'est pas violent, quoi. C'est, je veux bien, ouais, ils se tuent pas, d'accord, ouais, mais,
Bah, enfin, ils se tuent pas. Il y a déjà eu des morts, sur des rings de boxe, hein.
Ouais, mais alors, ouais, la boxe au JO, c'est quand même beaucoup plus encadré, hein. Ouais. C'est de la boxe de poing, c'est pas de la boxe de KO, tu vois.
Ouais,
c'est bon.
Mais,
je pense que ça fait aussi partie de leur réflexion à eux de, justement, pas trop prôner la violence, ouais, quoi. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous.
Plus sur ce qu'on appelle le toucher, c'est-à-dire un système de comptage par points. Mais, s'ils veulent pas des jeux vidéo, le jeu vidéo, il a pas besoin de vous, quoi. On n'a pas besoin d'être dans les médias. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, par exemple, vous savez, pour la cérémonie des awards de la musique, ils disent, oui, pourquoi les compositions de jeux vidéo ne sont pas plus représentées? Mais on n'a pas besoin de ça.
Oui, c'est vrai.
Le jeu vidéo, c'est sa propre industrie, il a ses propres codes, son propre langage, il est très bien où il est.
Bon, allez, on en a terminé cette semaine pour l'actualité. On va passer au jeu du moment dont tu vas nous parler, ADH. C'est le retour de Shenmue.
We'll be right back.
ADH, Shenmue, bon, on le présente plus, hein, je veux dire... Quoique si, en fait, parce que... Pourquoi il va falloir présenter Shenmue ? Parce que je suis persuadé que parmi les gens qui nous écoutent, qu'il y en a, mais une chier qui n'y ont jamais touché leur vie, et peut-être qu'ils n'y toucheront jamais d'ailleurs, parce que c'est quand même une expérience, disons-le, ATH, qui est assez particulière, n'est-ce pas ?
Ah ouais, bah en fait, Shenmue, encore aujourd'hui, c'est un jeu qui est assez atypique, parce que je vais commencer par placer le contexte. En fait, on incarne un japonais qui s'appelle Ryu Hazuki, qui rentre chez lui un jour, et il voit,
son père qui se fait défoncer par un étranger, n'est-ce pas ?
Donc après, il va chercher à savoir qui est cet étranger qui a tué son père, puis il va partir à sa poursuite. Mais là où dans un jeu, d'action, ou même un jeu de combat en monde ouvert, qui va directement te mettre dans l'action, en fait, Shenmue, ça représente même pas 20% du jeu. T'as un système très très poussé par rapport à ça, mais les combats, c'est pas la partie la plus importante du jeu.
Précisons que donc le père de Ryo est un maître en arts martiaux, et du coup, Ryo est versé dans les arts martiaux. Et à la base, Shenmue, c'est quoi ? C'est surtout un jeu qui s'appelait, en nom de code, Virtua Fighter RPG, qui était un projet Saturn. Le héros du jeu étant supposé être Akira, qui était l'un des personnages principaux de Virtua Fighter.
Ryo a les mouvements.
En gros, c'était un projet Saturn qui a été en gestation pendant très longtemps, et c'était Virtua Fighter en mode jeu d'aventure, on va dire. Et c'est un jeu qui a été ensuite transvasé sur la Dreamcast, et c'est un peu le projet fou de Yu Suzuki, quoi. Et l'idée, en gros, c'est qu'on va apprendre les combats de Virtua Fighter, on va rajouter une partie aventure par-dessus, et ça y est, c'est parti. Sauf que, comme tu le dis, ATH, la partie combat est réduite au strict minimum, qu'on va dire. Et il y a petit côté film de baston chinois où tu vas passer les trois quarts du temps à faire de l'enquête et à apprendre des trucs. Mmh. Et la baston, finalement, c'est dans les moments clés du jeu.
Ah, mais en plus de ça, enfin, quand on parle d'enquête, il faut bien savoir, c'est l'enquête, c'est pas où est un tel et je vais là-bas, je vais aller lui défoncer la gueule. Non, parce qu'au début, tu ne sais pas qui c'est. Donc tu vas essayer de dégainer quelques informations, de savoir si des gens du voisinage ont aperçu tel type de silhouette dans le quartier, ou bien essayer d'aller chez un antiquaire par exemple plus tard dans le jeu pour essayer de découvrir d'où vient cet objet, pour en apprendre un peu plus et continuer ton enquête. Mais le jeu en fait va s'agrémenter comme ça au fil des jours par petites bribes d'informations qui vont arriver comme ça pour te mener vers un objectif à plus long terme ou là où il va commencer à avoir de l'action. Mais vraiment la première partie de Shenmue, que ce soit dans le 1 ou dans le 2, il n'y a pas vraiment beaucoup d'action. C'est vraiment un jeu qui prend son temps. Et c'est pour ça que je dis que c'est un jeu très atypique, parce que je pense qu'aujourd'hui, tu vois, c'est un jeu comme ça ferait peur à n'importe quel éditeur. Tu voudrais le vendre comme ça, il va dire non mais c'est ton jeu, il est pas intéressant, on se fait chier, c'est pas fun, les gens ils ont pas envie de poser des questions, est-ce que vous avez vu des marins traîner dans le coin, tu vois. Ils veulent castagner des gens, tu vois, tu fais un jeu de combat, bah...
Ils ont pas envie d'aller déplacer des caisses dans un port.
C'est ça. Et en fait, Shenmue, c'est un jeu qui est très simulation de vie, qui veut être assez réaliste, entre gros guillemets, hein, réaliste dans la logique du jeu vidéo, mais que, par exemple, si Yu Suzuki a décidé que Ryu devait travailler pour obtenir de l'argent, bah Ryo va travailler dans un port tous les jours, c'est-à-dire que t'auras tes horaires et tu seras obligé d'aller travailler. Et du coup, bah c'est quelque chose qui va se passer tous les jours et qui peut être très très chiant, tu vois, pour quelqu'un qui n'est pas habitué ou quelqu'un qui s'attendait vraiment à avoir un jeu où il va être dans le vif de l'action. Et du coup, je pense que ça va être un point qui peut être très contraignant, mais si tu veux te laisser porter par l'histoire du jeu, bah c'est quelque chose qui est quand même pas négligeable à prendre en compte, parce que Shenmue, s'il y a encore pas mal de fans aujourd'hui, c'est parce que c'est un jeu qui, par-delà le temps, n'a pas eu d'équivalent, et surtout, qui a imposé son propre rythme, tu vois. C'est un long fleuve tranquille. Le début, c'est un long fleuve tranquille.
C'est pour ça que je suis pas d'accord avec les gens qui le comparent avec Yakuza, parce que certes, il y a des points communs qui sont évidents, notamment, tu sais, ce côté monde ouvert, mais dans un espace assez refermé, finalement. Mmh. C'est-à-dire que Shenmue, certes, c'est un des premiers jeux en monde ouvert, mais ça reste dans un lieu bien précis du Japon, etc. C'est pas GTA, quoi, en fait. Tu vas pas te balader partout. Et Yakuza, il est un peu sur ce principe-là. Par contre, là où Yakuza est très différent de Shenmue, c'est que, contrairement à Shenmue, justement, il n'y a pas ce côté enquête. C'est un jeu très pulp, en fait, Yakuza, tu vois. C'est un jeu qui va à l'essentiel, qui est très arcade dans son esprit. Et c'est pas un jeu qui prend le temps, comme Shenmue, en fait. C'est un jeu qui est dans un esprit, pour moi, qui est très différent.
En fait, Yakuza, il y a ce côté, on va dire, enquête, un petit peu raconter une histoire, tout ça.
Ouais,
vite fait, mais ça va être dans les cinématiques, en fait.
Tu vas pas aller interroger les trois petites vieilles du coin.
C'est ça.
Pour, et tu vas pas aller donner du lait au chat, quoi. Enfin,
c'est ça. Quand même, de Yakuza, il y a quand même un côté très cinématographique qui est là. Et du coup, il y a des cinématiques qui durent assez longtemps, hein, qui imposent une ambiance. Mais en fait, pour moi, la différence entre Shenmue et Yakuza, elle est simple. C'est-à-dire que Yakuza, c'est un beat'em all avec une histoire derrière, alors que Shenmue, c'est un jeu d'aventure avec du combat à l'intérieur. Yakuza, il a été pensé d'abord comme un beat'em all, et ils ont rajouté des quêtes annexes et tout ça aux alentours, puis une histoire. Parce que Yakuza, c'est un système de combat qui est très arcade, tu vois. C'est, par exemple, tu appuies sur carré, etc.
Alors que Shenmue, c'est une simulation de jeu de combat, en fait, quoi. Enfin,
bah, en fait, c'est
Virtua Fighter, c'est, tout simplement.
C'est ça. Il a les mouvements d'Akira de Virtua Fighter. Et après, tu pourras apprendre d'autres techniques, etc., en allant t'enseigner dans des dojos, ou bien en t'entraînant, etc. C'est un système de combat qui est très profond, qui prend du temps à être maîtrisé. Mais quand tu maîtrises vraiment le système de combat dans Shenmue, tu prends vraiment un grand plaisir, comme pour quelqu'un qui joue en fait à un jeu de combat. Par exemple, tu joues à Street Fighter, et bah c'est un jeu où tu vas devoir mémoriser les combos. Alors que Yakuza, tu peux y jouer comme ça, la main dans le slip, t'appuies sur carré, puis au bout d'un moment, il y aura un QTE qui va se déclencher pour faire un finish move, tu vas balancer ton attaque, t'es content. Et en fait, Yakuza, c'est, il a vraiment le côté un peu, tu vois, de Sleeping Dog, tu vois, il se rapproche plus de ce type de jeu-là.
Ouais, et même ce que je trouvais très immersif dans Shenmue, tu sais, c'était le côté film de baston chinois où tu galères à prendre les attaques, quoi. Et tu le ressens aussi en tant que joueur, quoi. C'est-à-dire que le coup, tu sors pas comme ça, quoi, à moins d'être très doué. Mais je m'identifiais très fortement au personnage grâce à ça, quoi. J'avais vraiment l'impression d'être un apprenti en arts martiaux qui découvrait des techniques, etc., et qui essayait de les sortir, quoi.
Bah en fait, c'est là où Shenmue en fait a été génial, c'est que par exemple, tu vois, dans un jeu classique. Pour t'apprendre un coup, le personnage va te dire appuie sur carré, carré, puis X. Alors que là, dans Shenmue, justement, il a pas voulu entrer dans ce côté trop jeu vidéo, il va te dire, mets ton corps en avant, puis donne un coup de poing, et en même temps, recule ta jambe, par exemple. Et du coup, en fait, c'est pas les touches qui vont t'apparaître à l'écran. Le mec, il te dit les mouvements qu'il faut faire, et toi, tu sais que carré, par exemple, ça correspond à la touche du poing, que triangle, ça correspond à la touche du pied, et du coup, tu te dis, attends, donc s'il me dit de faire ça comme ça, donc tu vois, tu interprètes un peu ce qu'il te dit et tu le retranscris manette en main. Et ben là, tu vois que t'as fait le bon mouvement. Et là, il te dit ouais, c'est bon. Maintenant, la deuxième étape. Après, une fois que tu l'as appris, tu peux aller dans ton carnet pour voir le mouvement, bien sûr, hein, pour que tu puisses le refaire. Et là, tu sais comment faire. Mais le mouvement, tu vois, dans Shenmue, les coups, ils sortent pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il faut vraiment respecter
un timing.
Voilà, le timing qui est très très important. Si tu fais n'importe quoi, bah ça va rien sortir du tout et tu peux pas faire des combos comme dans un Tekken, tu vois. Tekken, tu tapotes la manette, ça sort des combos. Là non, si tu fais n'importe quoi, tu vas te faire défoncer la gueule par n'importe quel pecno, tu vois. Comme je l'ai dit, il faut vraiment prendre le temps pour y jouer, il faut avoir le temps devant soi. C'est pas un jeu qui est très long, mais c'est un jeu qui demande d'être dans des conditions nécessaires pour pouvoir l'apprécier, je pense.
C'est un jeu, il faut s'investir. Et justement, TH, bon, là, t'as refait les deux jeux, tu les as terminés. Donc, 19 ans après, Shenmue, est-ce que ça a bien vieilli?
Bah alors, non, ça a pas bien vieilli, parce que déjà, le portage, tu vois, la jouabilité, bah ils ont gardé la jouabilité à l'ancienne, alors qu'ils auraient pu mettre franchement une jouabilité moderne, tu vois, comme par exemple dans les remakes de Resident Evil, ils t'ont gardé la jouabilité classique, mais ils t'ont mis la jouabilité moderne, parce que Ryo, il a un petit problème, c'est qu'il est très très rigide, un peu à l'instar de Chris Redfield, tu vois, dans Resident Evil, dans le manoir. Le mec, t'as l'impression que c'est un 36 tonnes, quoi, et pour se retourner, c'est un petit peu galère. Le mec, il a carrément une touche pour courir, tu vois, enfin, par exemple, pour prendre un virage avec Ryo, c'est assez compliqué parce que le personnage est pas très maniable, tu vois, il va tout droit, en fait. C'est parce que à l'époque, en fait, le jeu jouait avec la flèche. Et du coup, quand tu joues au stick analogique, le stick analogique, il reconnaît pas toutes les directions. Il reconnaît que les directions que tu pouvais faire avec une flèche analogique, donc c'est-à-dire 8 directions. Donc c'est un petit peu compliqué à manier. Ça, c'est un petit peu dommage que ça n'a pas été changé. Après, le portage, tu vois que le jeu, pour son époque, c'était un des plus beaux jeux qui était sorti. Heureusement, parce que le portage, il n'y a pas eu grand-chose, je crois, mis à part le mode 16/9, puis les sous-titres en français, enfin Shenmue en français arrive. Et puis le gros point plus pour moi de cette version, c'est quand même de pouvoir mettre le jeu en japonais et puis se taper les voix anglaises horribles.
Elles avaient un côté un peu comment dire film de série Z, les voix anglaises.
Ah mais ça se trouve les
Fukusan.
ça se trouve tu vois les voix japonaises, elles sont nulles à chier aussi. Mais comme je comprends moins bien le japonais que l'anglais, ça me dérange moins, tu vois. Et puis même pour l'ambiance, c'est un petit peu mieux que les Japonais au Japon parlent japonais. Voilà. Par contre, pour le 2, tu vois, je me suis dit bon, je vais essayer de la jouer roleplay. À Hong Kong, ils parlent anglais. J'ai mis anglais, j'ai fait un... C'est pas très bien, quand même. Alors, j'ai remis 100% en japonais, parce que les voix anglaises de Shenmue, elles m'insupportent, quoi. Donc, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il est pas cher, tu vois, il est à 35 balles. Pour un jeu qui, si tu veux le refaire aujourd'hui sur Dreamcast, bah, c'est minimum 100€ pour le premier et 200 pour le deuxième en bon état, tu vois, donc... Et puis, il faut la Dreamcast aussi, donc c'est bien d'avoir ça pour ceux qui veulent avoir un pan du patrimoine de Sega et puis du jeu vidéo dans sa ludothèque. Mais pour les gens qui sont pas dans le délire, vraiment, qui aiment pas trop les films chinois, japonais, comme ça, d'arts martiaux, voilà. Mais, tu sais, les films d'arts martiaux, vraiment, à l'ancienne, quoi. Mm. Les Jackie Chan du début. Quand il est là, il apprend, etc. Et puis, au bout d'un moment, il va dans le bar avec ses potes et tout. Parce que Shenmue, c'est un petit peu ça aussi. C'est vraiment, Ryu, il vit sa vie. Toi, tu vis ta vie avec lui. Mais si les gens, ils ont pas envie de jouer à ça, ne joue pas à Shenmue. Va plutôt sur Yakuza ou sur Sleeping Dogs. Tu vas plus t'éclater parce que là, c'est un jeu vraiment où je pense qu'il demande une part d'investissement de la part du joueur. Mais si t'es prêt à t'investir, le jeu, il te le rend en retour. Et après, il y a certaines choses que tu trouvais cool à l'époque et aujourd'hui qui ont mal vieilli. Par exemple, les dialogues et tout ça. Surtout, tu vois, quand je le surfais, là, je me suis dit, ah ouais, c'était pas aussi génial que dans mes souvenirs. Mais, tu sens quand même que ce jeu-là, il est quand même un génie créatif derrière.
Bah, disons, en tout cas, c'est un jeu qui a une identité et c'est ce qu'on pourrait clairement appeler un jeu d'auteur. Et c'est le jeu, à chaque fois que je le vois, je me dis, mais comment Yu Suzuki a réussi à vendre ça à Sega? Je sais pas, il a dû les arnaquer quelque part parce que... franchement, je me demande encore comment ces gars a pu financer ça, quoi. Parce que c'est tellement particulier comme expérience que c'est clairement pas fait pour tout le monde, quoi.
Bien sûr. Et puis, je voulais aussi finir sur quelque chose, c'était l'aspect contemplatif du jeu. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui est très contemplatif, mais pas, tu sais, dans le sens contemplatif, comme un journée ou les jeux comme ça. C'était contemplatif, en fait, dans la vie tous les jours, dans le banal, dans la routine. Il y a cette espèce de routine qui s'installe comme ça au fur et à mesure. Et puis, avec les personnages avec qui tu discutes, parce qu'en fait, comme j'ai dit, Ryu cherche à se venger de l'assassin de son père. Et les gens qu'il va rencontrer essaient de lui dire que la vengeance, c'est pas quelque chose qui va être bon pour toi. Même si lui, il est vraiment déterminé à aller jusqu'au bout. Et ils vont essayer de lui faire comprendre les choses de manière un peu philosophique. Et ça, je trouve que c'est quand même un truc qui est cool, tu vois, dans les films d'arts martiaux. C'est le truc, tu vois, le vieux man chinois qui sort une phrase du style « Quand le sage monte la lune, l'idiot regarde le doigt ». Bah, dans Shenmue, il y a un peu ce côté-là. Donc, il faut adhérer au délire, tu vois.
Tout à fait. Bon, allez, messieurs, on s'arrête pour ce podcast de la rentrée. Je vous rappelle donc qu'on recrute, hein. Tire en premier @msn.com, tyrnver@msn.com. Si jamais vous êtes intéressé, contactez-moi. On fera le point ensemble. Allez. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine.
Salut à tous.
Salut, et Shenmue est quand même un super jeu.